Henri Thorion est professeur à Philanthropos. Il y enseigne la philosophie politique. Il a été, jusque très récemment, en fait, professeur de philosophie du droit et de droit fiscal à l'Université de Fribourg. C'est pas un philosophe, je dirais, ordinaire, parce qu'il fait partie de ceux qui sont remontés jusqu'à la source, vraiment. Aristote, bien sûr, Thomas d'Aquin, et qui a réussi vraiment à mettre en évidence, parfois même contre certains thomistes, le caractère vraiment spécifique du jugement pratique. Et souvent, on croit que pour faire de la bonne politique, il faut partir d'une bonne théorie, de l'homme, par exemple, de la religion catholique, d'une conception de la nature humaine, etc. Or, le domaine pratique ne se déploie pas à partir d'un domaine spéculatif. Ce n'est pas un domaine idéologique. Alors, quand il fait de la philosophie du droit, c'est pour désidéologiser la pratique du droit et pour montrer que c'est un lieu où on est dans l'approche, dans la vraisemblance et donc dans une mise en commun aussi, on réfléchit sur le bien commun, mais une mise en commun aussi de nos visions, nos perspectives, pour essayer de trouver ce qui est vraiment le vrai au sens pratique, vous voyez, qui n'a rien à voir avec une vérité métaphysique absolue. Donc, il aborde là un sujet, justement, qui relève de la philosophie pratique, éminemment pratique, éminemment difficile, puisque nous vivons, nous tous, sous le régime de la dissuasion nucléaire. Il y a des pays qui sont armés d'une arme qui n'est pas simplement une arme de puissance, comme le disait Günther Anders, mais d'une arme de surpuissance qui presque remet en cause la puissance, au sens où posséder cette arme n'est pas nécessairement être puissant, finalement. Et donc, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire que cette situation... Et donc, vous voyez... Ce dont on parle là, pour commencer, hier on est allé à la source avec Iliade. Là, on est en train de penser la situation de paix dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire une paix qui prétend, sinon se fonder, du moins se fortifier à travers la dissuasion nucléaire. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une situation incontournable, inévitable? Vous voyez, ce sont les questions qu'on va essayer d'aborder ce matin. Donc, une paix, on va parler cet après-midi de la guerre juste. Est-ce qu'il y a une guerre juste? Et ce matin, finalement, on se pose la question de savoir si nous ne sommes pas dans une paix injuste. C'est ça qui est à l'arrière-plan, bien sûr, de cette réflexion avec Henri Thorion. Henri, je te laisse parler.
Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je vais, en fait, essentiellement examiner les raisonnements qui sont faits en Occident, en lien avec l'OTAN, essentiellement, avec la puissance nucléaire américaine et l'OTAN, pour justifier la dissuasion. Et je vais effectivement démonter en quelque sorte ce raisonnement qu'on a tous, que les journaux, les journalistes ont tous et dont on est imbibé, mais pas le pape François, cette idée que la dissuasion est ce qu'il y a de plus efficace pour assurer la paix. Et je vais vous démontrer qu'on est tous, en étant convaincus par ce type de raisonnement, convaincu par un raisonnement fondamentalement utilitariste, fondamentalement conséquentialiste, et que c'est notre mode de vie à nous autres occidentaux, en quelque sorte, parce que c'est des choix politiques énormes et qui continuent de s'étendre, les choix du parapluie nucléaire atomique américain, qui continuent de s'étendre avec toujours plus de pays. Et c'est des choix qui déterminent notre pensée, notre façon de penser facilement dans toutes sortes d'autres domaines, comme le droit de mourir, comme le droit à l'avortement sans limite, y compris dans les derniers mois de la grossesse. Si vous voulez, on vit dans un monde où la structure est une structure de droit contrasocial, contractualiste, avec une importance centrale des droits individuels, mais ça c'est la superstructure, si vous voulez, ou c'est la structure sans contenu. En réalité, on s'aperçoit que dans cette structure, ce qui opère le plus efficacement sur toutes sortes de domaines pratiques qui concernent la vie humaine, c'est des raisonnements utilitaristes, et que la meilleure façon de comprendre ce que c'est qu'un raisonnement utilitariste, c'est à propos de la dissuasion, surtout si on est convaincu par la dissuasion, c'est-à-dire par le raisonnement. On peut mieux le voir, ce type de raisonnement, avec toute sa force, dans ce cas-là. Je commence par Michael Walzer, « Guerre juste et injuste ». Je ne vais pas parler de « Guerre juste et injuste », ce sera pour cet après-midi, mais il a un chapitre 16 qui introduit la notion d'urgence suprême à partir d'exemples concrets pris dans la guerre 39-45, et un chapitre 17 sur la dissuasion nucléaire, où il justifie la dissuasion nucléaire à partir de l'idée qu'on vit maintenant de façon permanente dans une situation d'urgence suprême qui autorise, parce qu'il y a une nécessité qui autorise, de mettre entre parenthèses tous les droits, tous les biens fondamentaux, toutes les règles habituelles de la morale. À son avis, c'est devenu quelque chose de permanent, et il a écrit son livre, pas au niveau de la réédition qui a eu en 1992, mais à l'origine, il l'a écrit à l'époque où il y avait encore l'URSS. Il n'y a pas eu de changement apparemment dans son livre en 92, alors que l'URSS a été démantelée en 91, et il semble que dans les pays européens et aux États-Unis, on continue de raisonner à propos de la Russie comme si l'URSS était encore là. Et donc je vais parfois dire qu'il y a des valeurs européennes à sauver, à préserver contre le marxisme représenté, conquérant au niveau mondial, représenté par l'URSS. Son argumentation, donc, comme on va le voir, relève de ce qui est couramment pensé en Occident en matière de dissuasion nucléaire. Pour expliquer ce que c'est que l'urgence suprême, Walter relève que la Pologne, la France et la Grande-Bretagne, quand elles déclarent la guerre en Allemagne nazie en 1939, rentrent dans une guerre clairement juste parce qu'il s'agit de résistance à l'agression allemande. Certains moyens utilisés dans cette guerre contre l'Allemagne par les Alliés, à l'époque, en revanche, posent problème, dit Walzer. Ce qui intéresse Walzer, c'est ce problème, parce que ça va lui donner le concept qui lui permet de justifier à partir d'un précédent la dissuasion nucléaire. Le précédent lui est donné par Churchill, qui juge la situation de la Grande-Bretagne en 39-40, donc au tout début de la guerre, alors que les Américains n'étaient pas encore entrés dans la guerre. Il juge, à juste titre probablement, la situation de la Grande-Bretagne suprêmement critique. Et il justifie à partir de là la décision de bombarder les villes allemandes par des bombardements de terreur qui vont faire quelque 300 000 morts et 780 000 blessés graves, pour la plupart des civils. Ces bombardements visent en réalité des zones d'habitation et d'habitation ouvrière. Le but était de démoraliser l'adversaire par ces meurtres commis par les Alliés. Donc, à l'époque, c'était la Grande-Bretagne. Walzer indique à juste titre que la politique britannique du début de la guerre, en 39 et 45 surtout, va avoir d'autres conséquences que tous ces morts. Elle constitue un précédent déterminé pour le lancement de bombes incendiaires sur Tokyo et d'autres villes japonaises à la fin de la guerre, ça en 45, c'est intervenu, et pour la décision prise en même temps que ces bombes incendiaires étaient lancées, ou peu après, la décision prise par Harry Truman de lâcher la bombe atomique sur Hiroshima et sur Nagasaki. Le nombre de morts civiles dues au terrorisme allié, c'est lui, Walzer, qui utilise cette expression, durant la Deuxième Guerre mondiale, doit avoir excédé 500 000 d'hommes, de femmes et d'enfants. Comment donc a-t-on pu défendre le choix d'emblée de ces massacres et de cette arme ultime? se demande-t-il. Il se propose d'examiner avec grand soin l'argument implicitement contenu dans la référence à l'idée d'urgence suprême. Il constate qu'en face, on a le nazisme, le mal incarné, dit-il, à juste titre, et notre guerre est un combat pour les valeurs ultimes. Il s'agissait d'une menace si radicale contre les valeurs humaines, et comme la Grande-Bretagne était dans une position très délicate avant l'entrée en guerre des États-Unis, il ne fait pas de doute qu'il s'agissait d'un cas de suprême urgence. Ces menaces, cette situation de suprême urgence nous soumettent, dit Walser, à la loi de la nécessité, et la nécessité ne connaît pas de loi. C'est comme ça qu'on entre dans un raisonnement utilitariste. Walser rajoute que la destruction de non-combattants provoquée par les bombardements anglais, bien qu'ils partent d'une bonne intention, est une sorte de blasphème contre nos engagements moraux les plus profonds, même s'il y a suprême urgence, parce que nous ne pouvons rien faire d'autre. Une caractéristique du raisonnement utilitariste chez des personnes comme Walser, c'est d'être conscient qu'on bafoue, qu'on blasphème nos engagements les plus importants. Mais on préfère le faire en raison de la force de l'argument utilitariste qu'on va étudier. C'est donc une situation complexe. Je vais examiner en profondeur ce genre de raisonnement qui se réfère à l'urgence suprême, qui se réfère à la nécessité, une fois qu'il est appliqué à la dissuasion nucléaire, et je vais montrer sa faille. Walser nous dit qu'à partir de cet exemple, on peut comprendre pourquoi des menaces moins importantes ne relèvent pas du même cas. Le nazisme, défiant en effet les plus hautes valeurs de la société internationale sur une très grande échelle, Walser analyse les raisons américaines d'utiliser des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, et relevant que les Japonais n'ont jamais représenté la même menace contre la paix et la liberté, bien que c'était la guerre, que les nazis, et que Truman a déclaré « nous avons utilisé la bombe pour réduire la durée de cette guerre horrible », Walser conclut, il est impossible de trouver une défense convaincante de cette approche américaine avec ces deux bombes atomiques. Il n'y a rien là qui autorise à attaquer directement les populations civiles de ces deux villes. Il note que le Japon s'était bien comporté, bien entre guillemets, parce que dans son attaque à Pearl Harbor, dont on parle beaucoup, il a attaqué uniquement des installations militaires et portuaires. La reddition inconditionnelle du Japon que poursuivaient les États-Unis, même si elle était souhaitable, ne s'imposait pas comme dans le cas de l'Allemagne. Et elle aurait dû être écartée si le seul moyen d'y aboutir était le bombardement de populations civiles, par ces deux bombes nucléaires notamment. Les Américains étaient victorieux, on était en été 45, il n'y avait plus l'argument de l'urgence suprême, il fallait passer... revenir au régime ordinaire, dit Walser. Malgré cette réserve sur le traitement du Japon par les bombes atomiques américaines, Walser conclut ce chapitre consacré à la notion d'urgence suprême en nous disant que des défis plus limités que celui représenté par les nazis, s'ils sont d'un genre similaire, ont des conséquences similaires, extermination de civils possibles par bombes nucléaires. Ce n'est pas de nature à nous tranquilliser sur le traitement trop favorable, à mon avis, qu'il réserve à la dissuasion nucléaire par les Américains et par l'OTAN. Il va en effet justifier en bloc. Cela va donner ces discours d'idéologues proches de l'OTAN dans les, je cite une revue Défense nationale française, qui n'hésite pas à dire que la position occidentale s'insère dans un ordre nucléaire mondial, entre guillemets. On n'hésite pas à parler d'un ordre nucléaire mondial, et ces spécialistes de la défense osent dire que les alliés nucléaires européens jouent un rôle important dans la promotion d'un tel ordre. On a l'impression qu'il y a un idéal qui est poursuivi, c'est que les pays du monde entier bénéficie d'un parapluie nucléaire, pas nécessairement américain, il y aura toujours des adversaires, la bombe a besoin d'adversaires, mais qu'une solution idéale, ce serait que le monde entier soit couvert par la couverture d'un parapluie nucléaire. Je ne parle pas de la prolifération et du traité contre la prolifération, qui est l'obtention d'armes nucléaires par les pays en question. Il faut bien distinguer les deux. Le traité n'interdit que la prolifération et l'OTAN a réussi à expliquer que l'extension du parapluie à de nouveaux territoires, donc une menace supplémentaire, ne tombe pas sous le traité, parce que ce n'est pas une prolifération avec armes nucléaires en main de nouveaux pays. Pour l'instant, je termine ce premier chapitre, ce chapitre 16 de Walser. Est-ce juste cette explication du bombardement des villes allemandes par Churchill pour sauver le peuple anglais? Est-ce qu'il ne s'est pas trompé, Churchill? Ce n'est pas du tout discuté par Walser. On soutient que ces bombardements étaient nécessaires, mais est-on au moins sûr qu'ils ont été utiles avant de partir de l'idée qu'ils étaient nécessaires? Et avant d'utiliser des grands mots comme urgence suprême, même des grands mots quand on est assis à sa table de travail, comme Walser, et qu'on réfléchit, c'est comme un peu la justification de la torture. Après les attentats de 2001, autour jumelles, par l'administration Bosch, où j'étudiais ça avec mes étudiants en droit, les juristes de la Maison-Blanche et les juristes du Pentagone ont produit des arguments justifiant juridiquement, arguments utilitaristes, justifiant la torture par l'argument « If the stakes are high enough, torture is permissible ». Si les enjeux sont suffisamment importants, la torture est permise. Il y a eu cet attentat aux tours jumelles. On a capturé des terroristes dont certains, peut-être bien, participaient à des projets de nouveaux attentats. La torture est le seul moyen pour déjouer un nouvel attentat. On ne peut pas se permettre d'éviter d'utiliser ce moyen. On est dans une situation d'hyper-nécessité et la nécessité ne connaît pas de loi. 8 ans plus tard, le Congrès a sorti un énorme rapport d'à peu près 4000 pages qui étudie tous les cas de torture, qui étaient des cas de torture propres en quelque sorte, parce que c'était essentiellement par waterboarding, c'est-à-dire menace d'étouffement en étant plongé dans l'eau ou plongé sur une douche d'eau. Donc torture, ce n'est pas des aiguilles sous les ongles, ce n'est pas des tortures qui laissent des blessures physiques. Mais les personnes risquaient de mourir à tout moment et on les poussait jusqu'au bout, on poussait aussi loin que juste avant l'étouffement et la mort définitive. Et ce rapport a démontré que dans aucun des cas de torture, ça n'a abouti à des informations utiles. Donc c'était un moyen inutile. Et on va voir que la faille du raisonnement utilitariste, c'est qu'il repose sur un parti pris, sur ce qui est utile, qui n'est pas raisonné, qui n'est pas justifié. Et on a l'impression que c'est la porte ouverte à la peur, ce parti pris. On veut, on verra, justifier quelque chose en fonction des conséquences, justifier la torture parce que ça permettra d'avoir des aveux, et on n'a aucune idée si ça permettra d'avoir des aveux ou pas. Et on justifie par la bonne conséquence, et le seul poids de l'argument, c'est la bonne conséquence, ou en tout cas un moindre mal, parce qu'on fait souffrir des gens, et est-ce que c'est utile ou pas ? Les utilitaristes sont toujours incapables de l'établir. Oui ?
Permettez-moi une petite réflexion, je trouve la comparaison assez inappropriée. Oui. Dans le cas de la torture, on emploie la torture et on la justifie après. Dans le cas de la dissuasion nucléaire, le but c'est de ne pas employer.
Tout à fait. Grosse nuance. Vous avez tout à fait raison, et ça me permet d'aborder précisément le chapitre 17 de Walser sur la dissuasion nucléaire, parce que c'est là il y a la grosse différence dont vous avez parlé. Selon Walser, qui décrit et approuve l'approche américaine, la dissuasion nous préserve d'un double danger. Tout d'abord du chantage atomique et de la domination étrangère d'une autre puissance, et ensuite, ça nous préserve de la destruction nucléaire. Donc Walser part de l'idée que cette menace évitera la destruction nucléaire et reste à l'état de menace, d'où votre remarque est parfaitement justifiée. Suivant Walser, c'est-à-dire que la dissuasion. Suivant Walser, c'est clair pour lui que la dissuasion évite les deux dangers en même temps. Et Walser dit que le slogan qui était à la mode en Allemagne à l'époque où l'Allemagne était pacifiste, besser tot als rot, mieux vaut être rouge, donc envahi par l'URSS plutôt que mort, qui était opposé à besser tot als rot, mieux vaut mort que rouge. C'est pas tout à fait juste, dit-il, à juste titre, cette opposition, parce que la dissuasion nucléaire nous paraît capable d'éviter les deux, aussi bien d'être rot que d'être tot. Donc c'est gagnant-gagnant, en quelque sorte. L'origine de la dissuasion, dit Walzer, c'était après Hiroshima la hâte des dirigeants politiques partout dans le monde de prévenir le retour d'usage de bombes atomiques. Ça va dans votre sens. Ils adoptèrent pour ce faire la promesse de représailles similaires. C'est Walzer qui l'explique. Contre la menace d'une attaque immorale, ils avancèrent la menace d'une riposte immorale. Tel est le fondement de la dissuasion nucléaire. Dans la société internationale, comme dans une société civile, la dissuasion fonctionne en faisant planer des images tragiques de douleur. Pour les êtres humains, le champignon atomique, ce nuage qui symbolise un massacre sans aucune discrimination, le massacre des innocents, comme à Hiroshima, à une grande échelle. Il est indéniable que la menace d'un tel massacre, si elle est prise au sérieux, ne peut que faire écarter radicalement toute politique d'attaque nucléaire, dit Walzer. Soutenue par un ennemi potentiel, cette menace produit un équilibre de la terreur. Les deux parties sont tellement terrifiées qu'il n'est alors nul besoin d'aller plus loin dans le terrorisme. Walzer n'a aucun doute, semble-t-il, de l'efficacité de cet équilibre de fait, qu'il n'a aucune idée, n'évoque pas du tout le soupçon que cet équilibre pourrait ne pas éviter la destruction nucléaire de l'humanité. La question qu'il pose, la seule question qu'il pose, mais elle est tout à fait valable, et ça va me permettre de développer aussi la question qui a été posée, c'est la question, cette menace implicite dans la dissuasion est-elle moralement acceptable? Donc la menace de répliquer, la menace de se défendre par l'arme atomique si on est attaqué. Il dit c'est une question difficile. Il dit beaucoup diront que ce qui nous fait accepter la stratégie de dissuasion, c'est que se préparer à tuer, menacer de tuer même, n'est pas du tout la même chose que tuer. Donc l'analogie avec la torture que j'ai utilisée, qui avait pour but de vous expliquer de façon concrète comment on perçoit une urgence suprême, comment on perçoit une situation où the stakes are high enough pour faire quelque chose d'exceptionnel, ne vaut pas pour cet aspect parce que la dissuasion n'est qu'une menace. Walzer dit « certes, mais c'en est proche et de façon effrayante, menacer ou tuer, on verra comment. Sinon, la dissuasion ne marcherait pas. Et c'est dans la nature même de cette proximité entre la menace et l'exécution de la menace que réside le problème moral. Ce sont, dit Walzer, nos propres intentions qui doivent nous inquiéter, ainsi que les victimes potentielles, puisqu'il n'y a pas de victime réelle de ces intentions. » Tout ce qui est mauvais en tant qu'action l'est déjà en tant que menace, dit Walzer, pour refléter la morale traditionnelle. Si la guerre menée contre les populations est un meurtre, il s'ensuit que les menaces dissuasives contre les populations sont également de nature criminelle, dit Walzer. Mais malgré ça, vous allez voir, il trouve qu'il faut recourir à la dissuasion nucléaire en dépit du fait qu'elle est contre la moralité traditionnelle. Malgré cette nature criminelle de la dissuasion, nous n'avons pas le choix, dit Walzer. L'urgence suprême est devenue une condition permanente. Et la dissuasion est le moyen de faire face à cette condition. Dans un monde fait d'États souverains et soupçonneux, on n'a pas le choix, en tout cas pour l'instant. Nous brandissons la menace du mal pour ne pas le faire, car le faire serait si terrible que la menace, en comparaison, semble moralement défendable. C'est un moindre mal. dire « c'est un moindre mal » est l'essence d'un argument utilitariste, comme on le verra. Et comme on le verra, le problème, c'est qu'à la base, on n'est sûr de rien. On n'a aucune sécurité qu'effectivement, c'est un moindre mal, et il y a beaucoup d'utilitaristes qui prennent la position que c'est le pire, la dissuasion et l'empilement des armes nucléaires. Parce qu'effectivement, le raisonnement utilitariste peut aller dans les deux sens, ça dépend essentiellement de ce à quoi on croit à la base. Et on n'est pas au niveau rationnel, à ce niveau-là. Je vous expliquerai après une autre approche, au niveau des décisions pratiques, qui n'est pas basée sur un élément irrationnel comme celui-là, qui n'est pas basée sur l'état de panique dans lequel on doit tout faire pour, dans le but de quoi que ce soit. Walzer dit « C'est certes pas satisfaisant de proposer la dissuasion alors qu'elle implique une détermination ferme de tuer, conditionnelle, si, etc. C'est pas satisfaisant, mais les dirigeants politiques ne peuvent guère éviter de choisir la proposition utilitariste du dilemme. » Il est conscient de l'aspect utilitariste. Mais il dit « Quand on est un homme politique responsable, on ne peut pas faire autre chose. Ils sont là pour ça, ils doivent opter pour la survie collective et outrepasser les droits qui se dressent soudain comme autant d'obstacles à cette survie. Ils ne peuvent pas s'y soustraire en l'absence d'un ordre universel dans lequel la vie des nations et des peuples ne se trouverait jamais menacée. » Voilà, vous voyez que c'est une argumentation sérieuse. J'ai pas du tout l'intention de vous dire que c'est n'importe quoi. Elle nous convainc, la plupart d'entre nous. La grande majorité, je pense, plus du 90% de la population. Mais pas le pape François. Juste pour mettre un peu d'aspect concret sur ce qu'on appelle la menace, pour vous montrer que la menace, c'est pas du tout du bluff. Il ne faut pas se laisser attraper par le sens des mots. C'est l'exercice de dissuasion nucléaire fait chaque année par l'OTAN, et ça c'est un article paru dans Welt, sur l'exercice fait en octobre 2022. Ces jours-ci, des manœuvres spectaculaires se déroulent au-dessus de la mer du Nord, de la Belgique, du Royaume-Uni. À cette occasion, les pilotes de l'OTAN montrent les muscles. Ils dirigent leur avion lancé à grande vitesse en direction de leur cible, avant de remonter brusquement à une altitude d'environ 1200 mètres pour pouvoir larguer la bombe atomique sans être pris dans l'ombre de l'explosion et de redescendre. Organisé sur 2 semaines par 14 pays de l'OTAN, cet exercice débute lundi et fait partie des manœuvres midi immuables que l'Alliance organise chaque année en octobre. Les soldats s'entraînent à cette occasion au transport des bombes nucléaires depuis des dépôts souterrains et à leur montage sur des avions de combat. Dans les airs, l'attaque constituée d'escadrons rouges affronte la défense assurée par des bombardiers bleus. Ils simulent le largage d'une bombe atomique. Cette année encore, des B-52 bombardiers stratégiques à long rayon d'action venus des États-Unis, cette fois du Dakota, prendront part à l'exercice. À leur bord, des missiles nucléaires guidés. Cette année, jusqu'à 60 avions devraient prendre part aux manœuvres, dont des avions de chasse modernes, mais aussi des aéronefs de surveillance et des avions ravitailleurs, ainsi que des B-52. Dans quelques semaines, la Russie compte elle aussi organiser un exercice de dissuasion nucléaire baptisé GROM. En attendant, à l'OTAN, la tension est de mise, car les forces armées russes pourraient tirer un missile intercontinental, principal vecteur d'armes nucléaires, donc autre chose qu'un largage par avion. L'Alliance s'y prépare en se livrant à des éclaircissements. La dissuasion doit rester efficace. Pour sa part, cet exercice n'est pas une simple manœuvre, il contribue à garantir que la dissuasion nucléaire de l'Alliance reste sûre et efficace. C'est ça l'intention, hein ? C'est ça la menace. C'est en place toute une organisation d'une efficacité qui devrait être absolue. Si ça doit être déclenché, c'est conditionnel. Le secrétaire général de l'OTAN a fait usage de sa formule habituelle, l'OTAN prendra toutes les mesures nécessaires pour remplir sa mission de dissuasion nucléaire de manière crédible, efficace et sûre. L'exercice de l'OTAN s'inscrit dans le cadre de ce que l'on appelle le partage nucléaire. Il fait partie du bouclier nucléaire que Washington a déployé au-dessus de l'Europe. Cette dissuasion est considérée par beaucoup comme une assurance vie pour l'Occident. C'est clair. En effet, en cas d'attaque nucléaire à l'encontre d'un pays occidental, la Russie devrait compter sur une réplique nucléaire. Selon les informations confirmées, les Américains auraient stocké des armes nucléaires américaines dans le nord de l'Italie, en Belgique, en Turquie, ainsi qu'aux Pays-Bas et à Borrell, en Rhénanie-Palatinat, afin d'éviter que les bombes atomiques ne doivent être acheminées d'Amérique en Europe. On parle de plus de 100 bombes atomiques de type B-61 produites depuis 1968. À partir de 2025, l'OTAN compte introduire des bombes autoguidées de type B-61-12 qui n'auraient plus besoin d'être larguées directement au-dessus de la zone cible. On n'arrête pas le progrès. Les bombes se trouvent sous commandement américain. Toutefois, en cas d'urgence, les États dans lesquels les armes nucléaires sont stockées seraient contraints de mobiliser leurs escadrilles pour le largage des bombes, conformément à la volonté de Washington. Ces dernières semaines, la Pologne a été le théâtre de débats politiques houleux à la suite des déclarations du président. Le gouvernement de Varsovie serait lui aussi prêt à stocker des bombes nucléaires en Pologne, si les Américains le souhaitent. Au printemps, l'homme fort de la Pologne, dans une interview, avait déjà fait des déclarations en ce sens. Pourtant, jusqu'à présent, Washington n'en a pas fait la demande. Le stockage de bombes atomiques en Europe de l'Est contreviendrait aux clauses du traité fondamental entre la Russie et l'OTAN et constituerait une énorme provocation du point de vue de Moscou. Contrairement au gouvernement fédéral allemand, la Pologne, tout comme de nombreux autres pays de l'OTAN, considère cependant que ce document politique daté de 1997 n'a plus de raison d'être. Actuellement, l'OTAN n'a pas seulement eu vent d'un quelconque projet russe de recours aux armes nucléaires. Pour autant, depuis des années, Moscou ne cesse de jouer la carte du nucléaire pour menacer l'Occident. À l'heure actuelle, ça c'est pas dans l'article, les pays européens qui n'étaient pas encore dans l'OTAN, comme la Finlande, la Suède, s'empressent d'y rentrer. Le message est horrible, je pèse mes mots. Quand un pays n'a pas d'armes nucléaires, il est attaqué. On renforce, nous Européens, on renforce cette idée au niveau mondial. L'Ukraine a été attaquée, l'Irak a été attaqué, la Serbie a été attaquée, la Libye a été attaquée. Les choses se seraient passées différemment si elles avaient bénéficié d'un parapluie nucléaire ou de l'arme nucléaire. La prolifération d'une part et d'autre part l'extension de parapluies nucléaires existants ont de beaux jours devant eux. Si l'on comprend bien, la politique occidentale en a l'idéal d'un monde entièrement couvert par des parapluies nucléaires. Ou l'idéal, je m'exprime mal, peut-être notre destin, quelque chose d'inévitable pour nous. Alors, j'aimerais vous donner quelques positions différentes de celles de Walser sur le point « Peut-on faire confiance à la technique de dissuasion ?» Edgar Morin, dans un livre qui vient de paraître, « De guerre en guerre » de 1940 à l'Ukraine, dit qu'alors qu'on se félicite d'avoir accédé à la société de la connaissance, on est plongé dans un aveuglement sur l'ère nouvelle qui a commencé en 1945 avec la menace de mort sur l'humanité, qu'accroît sans cesse la prolifération des armes nucléaires, leur sophistication et leur possible utilisation si l'escalade, cette escalade ou d'autres escalades continuent. Il estime en effet qu'on peut craindre que la guerre actuelle en Ukraine dégénère en une guerre nouvelle, mondiale, qui serait, dit-il, pire que la précédente. Mais, dira-t-on, n'y a-t-il pas la dissuasion nucléaire et les espoirs qu'on peut mettre en elle ? Morin dit que quand on réfléchit à ce sujet, le plus souvent, on a perdu conscience de l'inattendu, de l'imprévisible, de l'erreur, de l'illusion, je cite, qui n'ont cessé de faire de nous des jouets inconscients de l'histoire. Il parle du déclenchement des précédentes guerres mondiales, notamment. Il accuse une pensée mécaniste, linéaire, qui est incapable de comprendre la complexité des phénomènes. Il consacre tout un chapitre aux surprises de l'inattendu, en disant que tous les événements majeurs ont été inattendus. Il rejoint Jean-Pierre Dupuis, le philosophe du catastrophisme éclairé, qui parle de l'aveuglement face à l'apocalypse dans un livre publié en 2019 intitulé « La guerre qui ne peut pas avoir lieu », qui reprend ce philosophe allemand que tu as cité, Fabrice, dont le nom m'échappe,
ou
Anders. Oui. La population européenne, dit-il, et américaine, a été encouragée à s'habituer à la dissuasion nucléaire en oubliant presque qu'elle existe, sous prétexte que ce qui peut anéantir à la fois les deux adversaires ne peut être employé. Je vous donne quelques positions maintenant qui sont tirées d'un ouvrage que j'avais dans ma bibliothèque depuis mes cours avec Jeanne Hersch à l'Université de Genève, l'ouvrage de Karl Jaspers, « La bombe atomique et l'avenir de l'homme », un ouvrage qui date de 57. Selon lui, penser qu'on peut continuer à faire des guerres sans employer la bombe atomique, sinon comme moyen d'intimidation, est une illusion. C'est une illusion de croire que la guerre atomique fasse obstacle à elle-même. Il s'oppose à l'idée que ce qui anéantirait à la fois les deux adversaires ne peut être employé. À propos de la dissuasion, il dit que si évident que soit ce raisonnement, il ne faut pourtant pas s'y fier. Par désespoir, on peut, contre tout bon sens, recourir à l'extrême. Selon lui, si l'on attend quelque chose des simples facultés de l'entendement, des facultés de calcul, de prévision à l'œuvre dans le calcul utilitariste, on se dissimule la situation limite dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle. Bon, Jaspers parlait en 58, il n'est rien arrivé. Hein. Et d'ailleurs, Walser utilise cet argument, qui est un argument qui a de la valeur, qui vaut ce qu'il vaut. On n'a que ça. Pour Jaspers, avec la bombe atomique, la condition militaire prend fin. La technique des armes a atteint son but et son terme avec la bombe atomique. La limite décisive maintenant est celle-ci. Le combat a cessé d'être un combat. En appuyant sur un bouton, on met en mouvement un mécanisme de mort contre lequel il n'y a plus de défense. Jaspers souligne que l'on est pris dans une situation dans laquelle il n'y a pas de moyens techniques pour en sortir. Même pas la technique d'un raisonnement. Calcul coût-bénéfice. Il existe le danger de voir disparaître l'humanité et toute forme de vie. Contre ce péril tout simplement nouveau, il existe depuis très peu de temps. Qu'est-ce que c'est à l'échelle du troisième millénaire qui vient de commencer et du deuxième millénaire qu'on vient de boucler? Nous qui étions, pour passer d'un millénaire à l'autre, dans la même situation que ceux qui vivaient en 980-990, et dans la même situation que ceux qui vivaient avant la naissance du Christ. C'est arrivé que trois fois, jusqu'à maintenant, dans notre ère, donc. D'après lui, les actions humaines qui font l'usage de la technique ne peuvent pas encore être soumises à une direction technique. Bien sûr, il ne connaissait pas l'intelligence artificielle. Je ne suis pas sûr qu'on s'attend à ce qu'elle fasse des miracles positifs s'agissant du contrôle, du déclenchement des armes nucléaires. Selon Morin, seul Albert Camus a compris l'importance historique de ce gigantesque massacre qu'a été la dernière guerre mondiale. Donc, les bombes nucléaires, c'est sûr, après la victoire en 1945, les deux bombes nucléaires, mais aussi avant. Et les massacres, je ne parle pas des massacres nazis, on les connaît, ils sont horribles, mais le fait que l'humanité a franchi à ce moment une nouvelle étape par les massacres de populations civiles des Alliés. Morin parle des morts causées par les Alliés. Il ne se réfère pas seulement aux centaines de milliers de victimes civiles des deux bombes atomiques, il parle de ce qu'il a vu comme résistant engagé dans l'armée au moment où il occupait l'Allemagne avec l'armée, et notamment des 1300 bombardements américains et anglais qui ont anéanti Dresde, faisant plus de 300 morts, alors que l'Allemagne était déjà défaite, mais elle n'avait pas capitulé. Il parle, Morin, des hécatombes de frappes de terreur sur des populations civiles qui détruisaient des villes entières. Et, dit-il, dont on n'avait pas conscience, tellement on était concentré, à juste titre, concentré sur l'horreur nazie. Mais probablement pas, à juste titre, pas conscience. Qu'a donc dit Camus ? Camus soutient que le progrès vertigineux des armements avec l'arme atomique, fait historique, force à poser de nouvelles façons le problème de la fin et des moyens. Le moyen ici fait éclater la fin. Quelle que soit la fin désirée, si haute et si nécessaire soit-elle, qu'elle veuille ou non consacrer le bonheur des hommes, qu'elle veuille consacrer la justice, la liberté ou la paix, le moyen employé pour y parvenir représente un risque si définitif, si disproportionné en grandeur avec les chances de succès que nous refusons objectivement de le courir, dit-il. Donc il est pour un désarmement nucléaire unilatéral. C'est la thèse opposée à la dissuasion. Car la terreur, dit-il, ne se légitime que si l'on admet le principe « la fin justifie les moyens ». Et ce principe ne peut s'admettre que si l'efficacité d'une action est posée en but absolu. On arrive, dit-il, à un monde où le meurtre est légitimé au sens de la menace de meurtre, si c'est nécessaire, et où la vie humaine est considérée comme futile. Voilà le premier problème politique aujourd'hui, dit-il. Il écrit en 48 dans un article dans Combat. Face à ce monde où le meurtre est légitime, il faut, dit-il, que des hommes se donnent pour tâche de préserver, au long de l'histoire apocalyptique qui nous attend, la réflexion modeste qui, sans prétendre tout résoudre, sera toujours prête à un moment quelconque pour fixer un sens à la vie de tous les jours. Il s'agit en somme, dit-il, de définir les conditions d'une pensée politique modeste, c'est-à-dire délivré de tout messianisme. Au centre de cette pensée politique modeste, il y a une compréhension de ce qu'est le bien de l'homme que Camus identifie à une part de l'homme qui n'est pas livrée à l'histoire. Camus la présente ainsi. Nous vivons dans la terreur parce que l'homme est livré tout entier à l'histoire et qu'il ne peut se tourner vers cette part de lui-même aussi vrai que la part historique, une part de lui-même qu'il retrouve devant la beauté du monde et des visages. Nous étouffons parmi des gens qui croient avoir absolument raison, que ce soit dans leurs machines ou dans leurs idées. Et pour tous ceux qui ne peuvent vivre que dans le dialogue et dans l'amitié des hommes, ce silence est la fin du monde. Pour ma part, dit-il, je crois être à peu près sûr d'avoir choisi, et ayant choisi, il m'a semblé que je devais parler, dire que je ne serai plus jamais de ceux, quels qu'ils soient, qui s'accommodent du meurtre possible et en tirer les conséquences qui conviennent. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que Jaspers procède comme Camus, en établissant lui aussi un contraste. À la fin de ce gros livre, la perspective du péril extrême, de la disparition, fait grandir le bonheur de l'amour, de ce qui est proche, de ce qui n'a certainement de réalité tangible, que pour un moment, un court moment dans le temps. Non qu'on doive vite y goûter encore pour s'étourdir et oublier, mangeons et buvons car demain nous serons morts, mais parce que dans ce présent, lui, la certitude de ce qui ne peut être ni représenté ni pensé dans l'espace et le temps. Qu'est-ce que ce présent qui est l'éternité ? C'est l'amour lucide des existences qui étaient destinées à s'appartenir, qui sont unies dans la raison, le sentiment de bien faire, la force d'avancer dans la voie de la raison. Ce que je fais moi-même, ce que l'humanité décide à son propre sujet par les hommes au gouvernement desquels elle s'en remet sous sa propre responsabilité, c'est sans doute insignifiant à l'échelle de la divinité, mais tout vain que ce soit, c'est d'une importance infinie pour l'homme. C'est ce qui est confié à sa liberté, ce qui dépend de lui. Cette présence n'est pas située au-delà des choses temporelles, mais installée en elle, elle les transcende, etc., etc. Il développe cette idée, qui est la même idée, dans le fond, que vous avez probablement vue hier soir, que Simone Weil tire de l'Iliade, quand elle parle de l'Iliade comme, dans le fond, un spectacle de la violence qui sert à mettre en scène ce monde de la famille, ce monde proche et familier, dans lequel chaque personne est pour celle qui l'entoure ce qui compte le plus. C'est vers le même type de bien que il y a cette référence une fois qu'on se trouve face à la violence, à la violence extrême dans le cas présent. Alors, j'aborde maintenant un aspect plus analytique où je démonte ce type de raisonnement. Encore une fois, ce type de raisonnement qui nous convainc, qui, il faut le voir pour le comprendre dans un sujet dans lequel on est convaincu par le raisonnement. Il faut le voir avec toute sa force. Tout d'abord, juger la dissuasion nucléaire en partant de la moralité commune. Si l'on prête attention à la tradition judéo-chrétienne en matière de moralité, surgit la question suivante. Bien que la dissuasion nucléaire soit peut-être le seul moyen qui permette à vue humaine de préserver notre monde de liberté et de culture en Occident, et bien que nous ayons manifestement une responsabilité dans la préservation de cet héritage, et une responsabilité extrêmement forte si on est responsable, ne doit-elle pas, la dissuasion, être rejetée parce qu'elle est contraire à la norme qui interdit de tuer la personne innocente ? Une menace ne tue pas, on va y venir. Un mot sur la façon dont on a défini la personne innocente au moment du développement du droit de la guerre. En gros, on est parti de la légitime défense au niveau individuel. Et au niveau individuel, pour se défendre, si c'est nécessaire, si c'est proportionné, on peut tuer la personne qui nous attaque. Ça fait toujours partie du droit. C'est le droit à la légitime défense et il faut que la défense soit proportionnée à l'attaque. Et ça peut inclure la mort de la personne qui nous attaque. Au moment où le droit de la guerre s'est développé, on a appliqué ça par analogie à la guerre et on peut attaquer l'armée qui nous attaque, l'armée du pays qui nous attaque, mais par analogie, on ne peut pas aller au-delà et on ne peut pas attaquer les populations civiles du pays qui nous attaque. Je reviendrai peut-être plus tard à la façon dont on justifie. C'est la théorie du double effet, et on y reviendra peut-être. Selon la tradition judéo-chrétienne, même une responsabilité importante ne justifie pas l'utilisation du moyen qui permet d'assumer cette responsabilité si ce moyen est quelque chose qu'on ne doit jamais faire. Il faut faire face aux responsabilités, aux devoirs que l'on a par tous les moyens corrects, mais lorsqu'il y a impossibilité, et l'impossibilité morale est une impossibilité, alors il faut se dire que la fin ne justifie pas les moyens, qu'il ne faut pas faire le mal, quel que soit le bien qui en résulterait, qu'il ne faut pas faire le mal en disant « mais c'est un moindre mal ». En conséquence, bien que la dissuasion soit nécessaire pour s'opposer au pouvoir de la Russie et à d'autres puissances peut-être communistes, et à sa volonté d'expansion au niveau mondial, et que nous ayons une obligation sérieuse de nous opposer à un tel pouvoir, la moralité élémentaire exige de rejeter la dissuasion. Ce prétexte, si on l'applique à la guerre nucléaire, exclut absolument aussi bien la menace de frappe anticipée, bien qu'aujourd'hui on ne parle plus de frappe anticipée, mais dans la technique on parle de frappe anti-force, mais on sait très bien que pour définir l'intention dans la mise en place d'armes nucléaires, il faut bien voir que la menace, c'est la menace du champignon nucléaire, donc une menace globale. C'est plus important que les stratégies telles qu'elles sont définies par les militaires. Donc une menace de seconde frappe, suivant la doctrine française, qui se fait à titre de représailles finales, celle dont le général de Gaulle disait dans une directive de 61, je crois qu'on n'attaque pas volontiers des gens qui ont de quoi tuer 80 millions de Russes, même si on a soi-même de quoi tuer 800 millions de Français. Il parlait à l'époque, de la situation à l'époque, elle ne s'est pas améliorée du tout aujourd'hui, puisqu'on a même aujourd'hui le doublement de la force de frappe américaine, de l'OTAN, et de la force de frappe française et de la force de frappe britannique. La question de l'intention, je reviens, qui est admise comme étant criminelle par Walzer, mais il dépasse cette situation par un raisonnement utilitariste, comme le précepte interdit de tuer une personne et que la dissuasion n'implique pas en elle-même de donner la mort à autrui, Il pourrait sembler que le précepte interdisant de tuer une personne ne s'applique pas à la dissuasion. Le précepte, c'est celui du décalogue, tu ne tueras pas. Mais comme le dit bien Walser, selon la moralité commune, la détermination de tuer et toutes les autres intentions de ce genre, détermination de voler, de mentir, et ce n'est pas une détermination de principe, c'est une détermination avec mise en place de mesures tout à fait concrètes, exercice annuel, amélioration continuelle de ces mesures, le principe est que même en l'absence de passage à l'acte, même lorsque le passage à l'acte n'est fait, ne serait fait que conditionnellement, il y a intention criminelle, détermination criminelle. Pour tout ce qui est un crime quand on le fait, la simple intention de le faire, quand c'est une intention qui se traduit par des mesures préparatoires, est déjà criminelle. Cela correspond au sens commun, et très souvent dans certains codes pénaux, l'intention est considérée comme un acte préparatoire et fait et partie de l'action criminelle, même si elle est arrêtée. Alors, j'en viens maintenant au démontage de l'argument utilitariste, mais avant, je veux juste vous citer ce qu'a dit le pape François en 2019 à Hiroshima et Nagasaki. Il a, dans le fond, été ce que j'ai expliqué de cette façon-là. Il l'a expliqué en disant que le crime est constitué par l'usage de l'atome à des fins militaires. Donc, on peut dire que ce n'est pas un crime parce que ça n'est qu'une intention d'utiliser cette arme si c'est nécessaire, mais lui exprime le caractère criminel de l'intention en disant que le crime est déjà l'usage de l'atome à des fins militaires. Et s'agissant de la dissuasion, comme moyen de garantir de la paix, il considère ça comme une fausse sécurité qui envenime au contraire les relations entre les peuples. Alors, en quoi consiste, je commence et puis on s'arrête un moment ou on ne s'arrête pas du tout pendant ma présentation hein?
En fait, on a tout qu'à maximiser, mais c'est à toi de m'imaginer. Il faudrait qu'on ménage un temps après pour des questions.
Sur... Oui, de toute façon.
Là, effectivement, tu as parlé un peu moins d'une heure. Oui. C'est à toi de voir. Tu as combien de temps encore, tu penses, de t'exposer ?
Alors, j'ai encore trois quarts d'heure à peu près. Et une possibilité, c'était de faire une petite pause.
Lire le pape et puis faire une pause après.
Pardon ?
Tu lis le passage sur le pape et après on fait une pause des votes.
Je viens de le lire.
Ah, tu viens de le lire.
Oui, c'est très court.
C'était fini.
Je peux commencer encore 5 minutes.
Oui,
et puis comme ça on fait la pause à 10 heures précises. Il est 10 heures moins 5. On fait une petite pause et puis je recommence après.
Très bien.
Si ça justifie, sinon. Mais en général, c'est mieux de faire une petite pause après 3 quarts d'heure, après une demi-heure, 3 quarts d'heure. Alors l'idée est de revenir sur cette pensée qui est la nôtre de Walser et de voir en quoi elle relève d'une pensée mécanisme linéaire suivant les expressions de Morin, en quoi elle relève des simples facultés de l'entendement selon l'expression de Jaspers, c'est-à-dire d'une faculté en nous qui calcule et que Jaspers n'identifie pas à la raison, il voit la raison comme quelque chose de beaucoup plus grand que cette simple capacité de calcul, coût-bénéfice, quand on a un projet déterminé. Le conséquentialisme ou l'utilitarisme, et le conséquentialisme est un ensemble d'approches caractérisées par une certaine conception de la prise de décision. Les différentes variantes d'utilitarisme font toutes partie de la famille des approches conséquentialistes, mais tous les conséquentialismes ne sont pas toujours de l'utilitarisme. Chaque théorie conséquentialiste de la prise de décision soutient que comme le bien-être humain est à la base de toute action correcte, le bon jugement doit nécessairement se baser directement ou indirectement sur l'idée des meilleures conséquences possibles. Ou, quand on fait face à une situation dans laquelle toutes les issues sont négatives, par exemple s'agissant de quelqu'un de gravement malade en fin de vie, la décision doit se baser sur les conséquences qu'on juge comme représentant le moindre mal dans la situation dans laquelle on est. Donc vous comprenez, le conséquentialisme a parfois une théorie très belle, très humaniste, très philanthropique sur les biens humains, mais il estime que la décision doit se prendre sur les conséquences de la décision qu'on prend en termes de réalisation concrète des biens. En d'autres termes, la réflexion pratique dans chaque situation doit être exclusivement centrée sur un calcul coût-bénéfice. Il s'agit de produire par sa décision morale le meilleur état de choses possible dans la situation en cause, ou tout au moins le moins mauvais. Bien sûr, une telle approche de la prise de décision met souvent en question la morale commune, en ce sens qu'il y a insistance alors afin que le calcul de la meilleure solution possible puisse se faire en toute objectivité, insistance pour que les absolus moraux de la morale commune, par exemple « tu ne tueras pas », soient mis entre parenthèses. Il serait indispensable de faire cette mise en parenthèse au moins dans les cas exceptionnels où les enjeux sont suffisamment importants, c'est-à-dire quand il s'agit d'éviter un dommage considérable. Je ne reviens pas sur la justification de la torture. Michel Walser a présenté de façon brillante la thèse en faveur de la dissuasion comme la meilleure solution possible dans la situation difficile dans laquelle on est, ou tout au moins le moindre mal. Il l'a fait, comme on l'a vu, en étant conscient du fait que la dissuasion viole frontalement la morale commune. Mais il soutient qu'on n'est définitivement pas, pour le prochain millénaire, pour les deux prochains millénaires, définitivement avec l'arme atomique, dans la mesure où un ordre mondial et une paix mondiale est difficile à imaginer, définitivement pas dans une situation normale. Les enjeux sont trop importants pour que les décideurs politiques puissent aller dans un autre sens. Ça n'est pas possible, ça n'est pas envisageable. Et ceux qui examinent cette idée et qui veulent la discuter, c'est intolérable. C'est comme au moment de la vaccination. J'ai vu au moment de la vaccination, j'ai écrit à tous les professeurs, les étudiants, c'était adressé Suisse romande à tous les professeurs, surtout à Fribourg, pas à Neuchâtel, parce que c'était vraiment trop difficile de venir suivre des cours, ils ne trouvaient pas normal. Moi, j'ai pris la défense des étudiants en disant, c'est pas normal qu'il y ait cette obligation de se vacciner, pas obligation légale, c'est facultatif au niveau légal, mais parce qu'on met des obstacles trop importants alors qu'il s'agit de gens. Et tout le monde m'est tombé dessus en disant le bien commun. Attention au bien commun. Très souvent, un argument utilitariste prend le profil ou l'aspect d'une défense du bien commun, c'est-à-dire de la défense d'un moindre mal. C'est un moindre mal. Mais là, pour le vaccin, comme ce qu'on discute maintenant, mais est-ce qu'il évite la contagion? Eh bien non. On a appris après qu'il n'évitait pas la contagion. Et que donc, il n'y avait aucune raison de vacciner les gens qui étaient bien portants et jeunes. Moi, je me suis fait vacciner, vu mon âge, et comme le pape, d'ailleurs, je n'ai pas eu d'hésitation. Certains... Mais vous voyez, quand on raisonne en fonction de la conséquence, encore faut-il qu'on prévoie correctement la conséquence. Sinon, le raisonnement vaut rien. Et c'est la faiblesse du raisonnement utilitariste, c'est qu'il repose que sur les conséquences, et que les conséquences, on les connaît qu'à vue humaine. C'est-à-dire, il y a là, l'avenir est mystérieux, on ne peut pas le percer. Sauf quand il s'agit de projets tout à fait concrets. Construire un pont, pas de problème. Réaliser une construction d'un immeuble, tous les domaines techniques, pas de problème. De même dans le domaine médical, effectuer une opération parfaitement maîtrisée aujourd'hui au laser, ça peut être fantastique. On peut là faire un calcul des coûts et des bénéfices. Mais quelqu'un qui a une situation très grave, qu'est-ce qu'il subit comme traitement ? C'est l'ensemble de sa vie qui est en question et qui est le but final et pas un résultat concret limité. Le problème de base dans une telle approche est de savoir quelles sont les conséquences réelles quand il s'agit de dissuasion, de la réciprocité de la démarche, de la menace. On a vu les différentes positions à ce propos-là. Et je terminerai avec ça, c'est que les approches utilitaristes et conséquentialistes, je terminerai avant la pause, ne vous tranquillisez pas trop, ont été critiquées parce qu'alors même qu'elles affirment que tout dépend des conséquences, elles sont incapables d'expliquer comment on peut déterminer à l'avance les conséquences dans des situations complexes comme celle-là. Tout dépend des conséquences, suivant la théorie de la bonne décision, que met en avant l'utilitarisme, et on est dans l'incapacité de connaître les conséquences, de les connaître avec. Il y a donc une espèce de, derrière sa technicité, une futilité de ce type d'argument. J'irais même pour choquer jusqu'à dire, le plus souvent, c'est du n'importe quoi. Le rapport du Congrès américain a fait un rapport de 4000 pages pour dire que le choix fait parce que the stakes are high enough était du n'importe quoi, tout en respectant la différence que c'était des gens qui étaient effectivement torturés, alors que pour la dissuasion, il s'agit que de mesures qui sont prises et mises en œuvre que si c'est nécessaire. Voilà, après la pause, je vais rentrer plus à fond dans l'argument utilitariste pour que vous compreniez sa beauté et sa son caractère de perfection comme découplage de la menace, de l'intention de tuer par rapport à l'acte en lien avec une réciprocité. Comment ça fonctionne, ce type d'argument dans ce cas ? Et c'est vraiment, il faut le comprendre pour voir ce qui nous convainc dans cet argument. Et encore une fois, qui nous convainc, on ne peut jamais s'empêcher de penser, peut-être à juste titre. Vous voyez, c'est une situation très difficile, mais peut-être pas à juste titre. Je rentrerai dans ces arguments utilitaristes plus précisément tout à l'heure, et ensuite je vous explique l'autre voie. Alors, il est 10h05 en définitive, on recommence à quelle heure ?